Si vous voulez, on va prendre quelques minutes pour prier l'Éternel de bénir l'enseignement de la prédication de ce matin. Ô Dieu notre Père, tu es notre roi, tu es plein de force, de puissance, de majesté. Ton intelligence est infinie et tout en toi et gloire. Seigneur, ouvre notre intelligence à la compréhension de ta parole, à la réception de ta parole. Permet que nous soyons non seulement attentifs, mais que nous trouvions dans ta parole quelque chose à appliquer, à obéir, à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, de manière à ce que nos vies soient transformées à la ressemblance de la personne de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre notre esprit à la compréhension de ce passage sur le tabernacle qui nous aidera à mieux comprendre à la fois la personne et l'œuvre de Christ. Nous demandons ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. On en est rendu à la cinquième leçon sur le tabernacle. Aujourd'hui, on va regarder les quatre vêtements du début, les 14 premiers versets du chapitre 26. Alors, si vous voulez, on va tourner dans Exode 26 et on va lire les 14 premiers versets. Ensuite, ce qu'on fera, c'est que pour illustrer un peu le contenu de ces quatre vêtements-là, qui étaient les revêtements qui couvraient le tabernacle et leur signification, on regardera les diapositives. Et après les diapositives, on commencera à expliquer chacun des revêtements et leur signification spirituelle et les différentes références que ces choses-là ont à la personne et à l'œuvre de Christ. Alors, on va y aller dans le chapitre 26. Alors, comme vous voyez, on fait une étude du tabernacle en suivant l'ordre des Écritures. Moi, je pense que c'est la façon la plus riche de le faire, parce que si le Seigneur le fait dans cet ordre-là, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, chapitre 26, verset 1. « Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble, les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord des tapis, terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément, et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant le premier assemblage, et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans le tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Alors, c'est sûr que les premières fois qu'on lit les Écritures, on arrive sur un passage comme ça. Si on n'a pas quelque chose pour illustrer un petit peu ce qui est décrit. C'est très difficile par nous-mêmes de comprendre et de voir les relations que ces choses-là ont avec la personne et l'œuvre de Christ. Alors, ce qu'on va faire pour... on va regarder les différentes diapositives qui nous parlent de ces choses-là. On va voir que les tapis étaient placés dans un ordre particulier. Il y avait d'abord le tapis avec les chérubins. Il y avait ensuite le tapis avec le fait en poil de chèvre. Et il y en avait un, celui avec les chérubins, il y avait 10 tapis. L'autre en avait 11. Il y en avait un qui était avec des agrafes d'or. L'autre était avec des agrafes d'airain. On va voir pourquoi. Et il y avait aussi un tapis qui était de couleur rouge, teinte en rouge, la couleur du sang. Et il y avait aussi le dernier qui était fait en peau de tesson, dépendamment des versions. Il y en a qui disent tesson, d'autres qui disent dauphin. Et on va voir, la dernière diapositive va nous montrer les 4 tapis, de quelle façon ils étaient disposés. Et on expliquera à mesure un petit peu. Après que ça sera fait, on regardera les 4 tapis et leur signification. C'est moins clair aujourd'hui un petit peu. Quand même, on a quand même une bonne idée. 1, 2, 3, 4, 5. Voyez-vous? Il y avait 5 bandes avec la longueur et la largeur, tu as mentionné, 4 coudées et 28 coudées. Et les agrafes ici, les lacets qui parlent, ici, ils n'ont pas mis bleu, mais dans les écritures, ils disent bleu. Et ici, les agrafes, on les voit moins bien. Il faudrait qu'ils fassent plus noir. C'était des agrafes d'or. Donc, c'était 2 assemblages. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5. Et ils étaient assemblés au centre avec une autre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quand on regarde comme il faut, c'était le tapis qui couvrait, le premier tapis qui couvrait l'ensemble du tabernacle. Alors, quand une personne entrait dans le tabernacle et levait les yeux en haut, ce qu'il voyait, c'était ce tapis-là avec les 4 couleurs. On avait parlé tout à l'heure de bleu, de cramoisi, de blanc et l'autre, je ne me souviens plus, là, 4 couleurs. On les reverra tantôt. Alors, c'est ça, il y avait 10 tapis, mais il était par groupe de 5, il était relié au centre avec des lacets, 50 lacets et aussi des agrafes d'or. On avait mentionné la dernière fois l'or, la signification, on reviendra. OK, maintenant, on va les regarder encore une autre fois. OK. Quand on voit ici, c'était l'ensemble là, du tabernacle. Donc, les planches qui étaient debout, 5 colonnes. Ici, tu as toutes des planches qui étaient reliées par une barre transversale, mais on n'est pas rendu là. On va voir que c'était déjà construit et que le Seigneur commence à parler. Le premier tapis dont il parle, c'est celui-là. 28 coudées de long, 4 coudées de large. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, les agrafes et les lacets reliant une autre partie qui faisait 1, 2, 3, 4, 5 et que la partie tombait à l'arrière. Donc ça, c'est le premier revêtement. Celui qu'on voyait quand on était à l'intérieur du tabernacle, on levait les yeux vers le ciel. Et vous regardez ici les images, tout à l'heure on les avait vues, c'était vraiment l'image de deux anges l'un en face de l'autre qui étaient comme en attitude d'adoration. Alors c'était vraiment la partie intérieure, celle qu'on voyait de l'intérieur lorsqu'on était entré dans le tabernacle par la partie. OK, on va aller avec l'autre. Et celle qui était faite en poil de chèvre. Alors, celle en poil de chèvre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez-vous, la différence, il y en a 11 au lieu de 10. Il y en avait 5. Ils étaient reliés, je crois, encore là, par des lacets. Et si on avait l'éclairage comme il faut, ici, on verrait que les agrafes étaient des reins plutôt que d'or. Alors, on sait que l'airain, c'est plus le symbole du jugement. Et il y avait, au lieu d'avoir 10 tapis, Il y en avait 11. 1, 2, 3, 4, 5, reliés avec une autre partie qui en avait 6. Si on les relirait attentivement le texte, on verrait que c'est ça que les Écritures disent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 1, 2, 3, 4, 5, reliés avec 50 agrafes d'airain et 50 lacets. Et ça, c'était de couleur, du poil de chèvre, c'est blanc. OK. L'autre. Alors là, ici, on voit que celle-là étant placée par-dessus l'autre, était plus longue.
Si vous remarquez, l'autre, on avait dit 28 coudées.
Et 28 coudées, ça arrivait à peu près ici. Celle-là, elle avait deux coudées de plus, donc cette partie-là venait couvrir la première partie et elle était un petit peu plus longue, 30 coudées au lieu de 28, et elle avait 11 au lieu de 10. Donc, comme ça disait, la partie devait venir à l'arrière, couvrir l'arrière du tabernacle.
OK, on va passer à l'autre, celle qui fait en poil de bélier teinte en rouge.
Alors ici, on voit la troisième couverture.
Donc, on a vu celle qui avec les chérubins, celle avec les poils de chèvre,
et celle-là, on est encore par-dessus. Comme vous voyez, la plupart des commentateurs croient que ces deux-là étaient fixés au sol par des
croix. Mais rien des Écritures qui nous disent que c'était nécessairement comme ça. On croit que c'était comme ça. Les commentateurs croient que c'était comme ça.
Et celle-ci est en poil de bélier et teinte en rouge.
Alors, on fait facilement le symbolisme du sang de Christ.
Et la dernière, on va passer à la dernière, celle qui était faite en peau de tesson ou en peau de dauphin. Alors on voit celle de la peau de tesson était la quatrième. Il y avait celle des chérubins, celle du poil de chèvre, et celle des peaux de bélier teinte en rouge, et il y avait la quatrième couverture qui était, comme vous voyez, à l'extérieur, c'est pas quelque chose qui est particulièrement beau, particulièrement attrayant.
Alors, quand vous regardez ça, il y a comme quelque chose. Ici, plus vous êtes à l'intérieur, plus c'est beau.
Et après ça, on parle de blanc, de rouge, et il y a quelque chose qui n'est pas vraiment attrayant. Donc, on parle de la personne de Christ, son aspect extérieur, les Écritures nous disent, dans Ésaïe 53, n'avait rien pour attirer le regard. Donc, la personne physique de Christ n'était pas quelque chose qui correspondait avec sa divinité. Les gens, ça lui a pris beaucoup de temps, même les apôtres qui ont vécu avec lui 3 ans, ça lui a pris pas mal de temps avant de réaliser devant qui il se trouvait. Donc, Dieu incarné dans l'homme.
Mais l'homme, vu de l'extérieur, n'était pas beau, mais plus tu avançais vers l'intérieur, donc tu allais du sang, la pureté, vers le côté plus beau de ces 4 couvertures-là. OK, c'est-à-dire que là, en ayant vu ces 4 choses-là, il en reste une. Celle qui va montrer les 4 tapis placés un par-dessus l'autre, mais ils ont fait la diapositive de manière. Et c'est comme s'ils les ont dépliés pour qu'on voit les 4 une par-dessus l'autre.
Parce que normalement, la blanche, elle venait jusqu'en avant. La rouge, elle venait jusqu'en avant. La brune, elle venait jusqu'en avant.
C'était une par-dessus l'autre. Mais ici, ils ont placé le même dans la diapositive pour qu'on puisse voir l'ordre.
Donc, on a ici celle avec les chérubins. On a ici celle, le poil de chèvre, qui avait 11 tapis. Et ici, on voit la différence, là. Celle-là avait 28 coudées par 4 coudées. Celle-là avait 30 coudées de long par 4 coudées de large. Et après ça, on a celle de peau de bélier qui était teinte en rouge. Et après ça, on a celle de peau de tesson ou de dauphin qui était d'une couleur assez terne et peu attrayant au regard. Alors, on va les regarder maintenant, les significations symboliques de ces différents 4 tapis-là.
Alors, il y a 2 choses qu'on peut faire à la remarque après avoir regardé les diapositives. D'abord, il y a l'ordre de présentation. Le Seigneur commence de l'intérieur vers l'extérieur.
Je pense qu'il y a une signification très profonde sur le fait qu'il commence par le côté de Christ qui est le plus attrayant, qui est le plus beau. Le toit est décrit avant la charpente. On va voir qu'au cours de notre étude, on va voir que éventuellement, on va voir de quelle façon le Seigneur avait demandé à Moïse de construire la partie qui soutenait ces tapis-là. Mais c'est quand même significatif que le Seigneur nous parle de ce qui couvrait le toit avant la charpente. Donc, ce qui part du ciel, il part de ce qui est le plus important d'en haut, puis il descend en bas. Alors, quand on remarque ça, on voit qu'il y a dans la description du tabernacle beaucoup d'intelligence divine. Quand on se met à s'arrêter et à penser à ces détails-là, on est vraiment ébloui. Donc, le toit est la partie la plus haute et symbolise que l'œuvre de Christ a d'abord commencé au ciel. La charpente touchait la terre et symbolise l'œuvre de Christ sur la terre. L'ordre de présentation maintenant des quatre vêtements qui couvraient le tabernacle, elle aussi va de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui était le plus beau et le plus agréable à regarder. Donc les quatre couleurs, le tapis intérieur, celui qui était posé directement sur la charpente, était de quatre couleurs et il y avait, comme les Écritures disent, les chérubins artistement travaillés. Donc à l'intérieur, ça avait été tissé par des femmes. On va voir qu'il y a certains passages qui nous disent que c'était les femmes qui avaient fait ce travail-là à cause de leur habileté. Alors, ce qui était le plus beau et le plus agréable à l'œil à regarder, les quatre couleurs et les chérubins artistement travaillés, étaient décrits en premier. Le nombre de revêtements est aussi significatif. Il y a quatre tapis et on avait vu dans les leçons précédentes que le chiffre 4 symbolise l'œuvre de Christ sur terre. On dit souvent les quatre coins de la terre. Le chiffre 4 dans les Écritures est souvent relié avec le symbolisme de vouloir montrer la terre. Nous pouvons appeler les planches ou les ais. Dans certaines versions, les planches qui formaient la charpente, on appelait ça des ais, A-I-S. Moi, je n'ai jamais appelé une planche un ais, là. Mais je ne sais pas pourquoi, dans cette époque-là, ils appelaient ça des ais. Et les piliers auxquels les rideaux étaient suspendus à la charpente de la construction. Quatre grandes couvertures étaient suspendues par-dessus, formant le toit. Elles protégeaient la maison d'or et la mettaient à l'abri des intempéries et du vent. La structure du sanctuaire n'avait pas de plafond fixe tel que nous en avons dans nos maisons, pas de poutre de bois ni mur de pierre. Et vous, c'était juste des planches de bois qui étaient reliées par des anneaux chaque côté. Et la toiture, c'était pas quelque chose comme nous, on se fait une maison, on met un toit. Mais à l'époque, c'était dans le désert, c'était juste ces quatre pots-là qui couvraient le tabernacle. Donc, la tente d'assignation, comme l'indique son nom, se présentait sous la forme d'une tente et était couverte de quatre vêtements superposés. Deux couvertures de peau et deux assemblages de tapis tissés recouvraient le tout. Voyons maintenant les caractéristiques et le symbolisme du premier assemblage de tapis, celui qui était placé directement au-dessus de la charpente, donc celui qui avait les quatre couleurs et les représentations des chérubins artistement travaillés. Dans Exode 35, chapitre 35, verset 26, on apprend qui avait fait ces tapis-là. Ça disait « Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage. » Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Donc, c'est le travail de ces quatre tapis-là avait été fait par les femmes, les mains des femmes qui l'avaient fait avec amour et application pour honorer Dieu. N'est-ce pas que ça fait une ressemblance avec les femmes qui suivaient le Seigneur et l'assistaient de leur bien dans le Nouveau Testament. Alors, le premier couverture qui est décrite dans les six premiers versets, c'était un tapis de fin lin retors. Celui qui se tenait dans le lieu saint ou dans le lieu très saint et qui levait les yeux vers le haut était tout simplement rempli d'admiration. C'était comme s'il voyait à l'intérieur du ciel, car au-dessus de lui, il voyait un magnifique et grand tapis fait de quatre couleurs et avec des chérubins. C'était comme si on lui disait « Ici habite le Saint » avec un S majuscule. C'était là le tapis le plus à l'intérieur des quatre qui couvraient le tout. Il avait 40 coudées sur 28 coudées. On l'aurait mesuré là, dans sa longueur et sa largeur, il avait 40 coudées sur 28 coudées. Donc, 10, parce qu'il y avait 4 de largeur, 10 fois 4 fait 40, il y avait sur 28 coudées, chaque bordure avait 28 coudées de long. On va regarder l'ensemble de ce que les Écritures disent, donc on va décortiquer un peu qu'est-ce que les Écritures disent sur ce tapis-là. Premièrement, il y avait le matériau. Le Seigneur avait commandé que les 10 tapis soient faits de fin lin retors. Le fin lin était un coton filé d'une blancheur immaculée et d'une qualité extrême. La parfaite blancheur de ce matériau symbolise sans doute l'impeccabilité de Christ. Quand on dit impeccabilité, ça veut dire non seulement lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, ni même de ce que nous, on appelle, les Écritures appellent les péchés secrets, parce que les Écritures nous disent que nous, les hommes, on est capable de faire des péchés dont on n'est même pas conscient. C'est ce que je veux dire par péché secret. Donc, le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a jamais fait quelque forme de péché que ce soit. Et non seulement il n'en a pas fait, mais il était incapable d'en faire. L'impeccabilité, ça veut dire qu'il était pour lui impossible de pécher. Aujourd'hui, dans certains milieux, on avance des livres, on publie des livres dans lesquels on présente Jésus comme ayant pu tomber dans le péché avec Marie-Madeleine et des choses semblables. C'est carrément de la foutaise si on examine ces choses-là à la lumière des Écritures. Donc, la parfaite blancheur de ce matériau symbolise sans doute l'impeccabilité de Christ, sa pureté immaculée et l'absolue absence de péché en lui. Il n'avait pas de nature pécheresse, le seul homme qui est venu sur la terre qui n'avait pas de nature pécheresse, et il n'avait pas de péché en lui qui s'est exprimé sous aucune forme, en pensée, en parole, en action, en omission ou en péché secret. Donc la blancheur, le premier tapis, le reste était tissé sur du blanc. Donc les quatre autres couleurs venaient. Maintenant, il y a quatre couleurs. Les Écritures nous présentent les choses comme étant quatre couleurs. Très certainement qu'elles symbolisent les richesses insondables du Christ. On peut facilement déceler quatre glorieux caractères de notre Seigneur Jésus-Christ dans les quatre couleurs. Je pense que le blanc, c'est assez facile de savoir qu'est-ce que ça représente. Le blanc représente toujours la sainteté, représente toujours l'humanité sans tache du Rédempteur. Le blanc symbolise la justice et la sainteté manifestée de Christ, comme nous pouvons lire dans Marc, chapitre 9, versets 2 et 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Quand les apôtres ont monté sa montagne, le Seigneur s'est révélé à eux dans ce qu'il était véritablement dans sa divinité. Et ses vêtements étaient resplendissants, plus blancs qu'aucun blanc qu'on peut voir sur la terre. Alors ça devait sûrement être impressionnant. Autre couleur qu'il y avait sur le tapis, c'était le bleu, donc l'origine céleste. Le bleu, comme on le sait, quand il y a une belle journée d'été, on lève les yeux vers le ciel, qu'est-ce qu'on voit? La couleur bleue. Cette couleur nous parle de l'origine céleste de Christ. Maintenant, le pourpre représente toujours la royauté parce qu'à l'époque, il y avait seulement les rois qui pouvaient porter des vêtements de couleur pourpre. Le pourpre était la couleur portée par les rois. Le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois, tel que nous l'apprenons dans Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Dernière couleur, le cramoisi ou écarlate. Alors, dans le tapis, si on le reverrait, là, on verrait qu'il y avait deux couleurs, deux teintes de rouge. Donc, le pourpre et le rouge. Le rouge, le cramoisi, c'est plus la couleur rouge sang. Alors, à l'intérieur, quand on regarderait les quatre couleurs du premier tapis qui était à l'intérieur, on avait ces quatre couleurs-là. Donc, le rouge couleur sang, ça représente son sacrifice sanglant et sa mort. L'écarlate est un rouge vif, la couleur du sang. Cette couleur parle du sacrifice sanglant du serviteur souffrant, sacrifice par lequel Christ nous a acquis le pardon et la purification. Le Seigneur confère aussi ses caractères glorieux à ses bien-aimés rachetés. Ce qui est vrai pour la tête du corps l'est, par la grâce divine également, pour son corps, l'Assemblée de Dieu. Alors, on pourrait reprendre chacune des couleurs qui sont attribuées à Christ et leur symbolisme, mais le Seigneur nous dit qu'il est la tête et que nous sommes le corps, son corps. Si nous sommes son corps, nous avons, nous aussi, nous devrions refléter certaines couleurs dans notre vie aussi. La blancheur, la sainteté, le rouge, reconnaissance que si on est sauvé, c'est à cause du sang de Christ, etc. Alors, c'est bien important de voir qu'il y a un lien entre la tête et le corps. Troisième aspect qu'on va regarder du premier tapis, c'est son ornement. Les chérubins qui étaient tissés dans cette couverture ont une signification particulière. Lorsque Moïse, Aaron et ses fils entraient dans le sanctuaire et levaient les yeux, ils voyaient ces reproductions d'êtres célestes. Il n'est pas difficile dans ce contexte de saisir que ces chérubins, en rapport avec l'Assemblée, exprime une intention divine. Quand on regarde Éphésiens 3, versets 10 et 11, ça nous dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Les Écritures nous disent que les anges désirent plonger leur regard dans l'œuvre de Christ et dans ce qu'il a fait pour nous. 1 Pierre 1:12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Quand on regarde comme il faut, de quelle façon le tapis intérieur était disposé, il y avait deux anges, un peu comme dans une attitude d'adoration qui regardait par en bas. Je pense que c'est vraiment l'image de 1 Pierre 1:12. Les anges dans l'œuvre de Christ veulent voir ce qui s'est passé. Et quand ils nous regardent, pour eux, on est un exemple du miracle que Christ a fait. Il a transformé des êtres pécheurs. On est encore pécheurs, mais ce qui devrait transparaître dans notre vie, c'est une transformation. Maintenant, l'autre aspect du premier tapis, c'était ses dimensions. La longueur d'un tapis était de 28 coudées, sa largeur était de 4 coudées. Nous nous rappelons que le chiffre 7 est le symbole de la perfection et de la plénitude, et que le nombre 4 est le symbole de la terre. L'ensemble représente donc la perfection déployée sur la terre. Ces tapis étaient au nombre de 10. On a vu qu'il y avait deux parties de 5 chacun, agrafées par le milieu. Donc, le chiffre 10 symbolise la perfection de l'ordre divin et de la responsabilité humaine. Si nous additionnons la longueur totale des 10 tapis, nous obtenons 280 coudées, 10 fois 28. Constatation étonnante. Cela correspond exactement à la longueur totale de la tenture de fin coton du parvis. Là, il y a le tabernacle qui est au centre. Il y avait une toile blanche qui recouvrait, qui empêchait les gens de rentrer pour aller vers le tabernacle. Si on mesure, parce qu'on va le voir plus tard, si on mesure la longueur totale de la toile blanche qui recouvrait le territoire dans lequel le tabernacle était, 280 coudées. Et ici, si vous additionnez la longueur totale de 10 tapis de 28 coudées de long, vous avez exactement les mêmes dimensions. N'est-ce pas quelque chose de significatif? Cette analogie peut confirmer que les deux assemblages représentent l'assemblée, l'un la tenture du parvis dans son témoignage vers l'extérieur vis-à-vis du monde, l'autre la couverture avec les chérubins dans sa dignité glorieuse en relation avec le Fils bien-aimé du Père. Selon le conseil de son cœur, ils sont parfaitement unis. Moi, je trouve que c'est... Quand tu te mets à voir ces choses-là, quand tu les avais pas vues avant, je trouve ça, il y a un aspect vraiment d'intelligence divine. C'est parce que des fois, on lit ça rapidement, on se donne pas la peine de dire, bon, 10 tapis, 28 coudées, 280. Puis là, on fait pas nécessairement le lien avec le fait que le rideau blanc qui entourait avait 280 coudées également. C'est comme... Maintenant, la signification. Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Le terme grec pour parler de « il a habité parmi nous », c'est le terme « eskenosen », et qui pourrait se traduire par « la parole a tabernaclé parmi nous ». Alors, le lien que on a traduit « habiter », mais on aurait pu traduire le passage de Jean 1, 14, que la parole a tabernaclé au milieu de nous. Donc, la référence entre Christ et le tabernacle est très vivante. Si nous mettons les symbolismes des quatre couleurs l'une à la suite de l'autre, nous obtenons ce glorieux assemblage. Le Saint de Dieu, blanc, parle de Christ. Le Seigneur du ciel, bleu, on parle encore de Christ, son origine céleste. Le Roi des rois, pourpre. Et l'écarlate, le souffrant, le glorieux. Quand on met les quatre, on dit la phrase d'un coup sec. Le Saint de Dieu, le Seigneur du ciel, le Roi des rois, est devenu souffrant. C'est fantastique. Fantastique, carrément. Maintenant, les lacets et les agrafes, on va terminer là-dessus pour le premier tapis. Les 50 lacets bleus et les 50 agrafes d'or avaient pour but d'unifier les deux assemblages de 5 tapis chacun. Le chiffre 50 symbolise souvent la délivrance. Par exemple, dans le Jubilé, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait fait quelque chose de très sage. Il avait dit que les Juifs, entre eux, pouvaient se prêter de l'argent. Mais quand il arrivait la 50e année, après 7 fois sabbat, l'autre année qui arrivait après, c'était la journée du Jubilé. Alors, toutes les dettes que les Juifs s'étaient fait les uns envers les autres s'annulaient ce jour-là. C'est quelque chose de la sagesse divine. Ils savaient que les hommes entre eux profiteraient les uns des autres. Il y en a qui s'appauvriraient à cause de toutes sortes de problèmes, de péchés. Et qu'ils savaient que les hommes se prêteraient de l'argent. Et qu'il viendrait un temps que s'ils ne faisaient pas ce geste-là, la richesse se concentrerait dans les mains de très petits nombres. Un peu comme on voit aujourd'hui. On n'a pas de jubilé, nous. Pas dans notre société. Mais dans la société juive, c'était quelque chose qui avait été apporté par le Seigneur. Donc, cette question-là du jubilé, après 50 ans, toutes les dettes que les Juifs avaient entre eux s'annulaient. Sagesse infinie. Alors, le chiffre 50 est souvent présenté dans un esprit de délivrance. Aussi, la Pentecôte. La Pentecôte, donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur la terre, c'est exactement 50 jours après le départ de Christ. Donc, 50 jours, Pentecôte, 5, ça veut dire 50 jours après quand le Seigneur était monté au ciel. Exactement 50 jours après, le Seigneur leur avait dit que l'Esprit descendrait, leur avait dit de demeurer à Jérusalem et que l'Esprit viendrait sur eux. Exactement, 50. Et le livre que je vous ai parlé l'autre jour, c'est un livre pas mal fantastique pour voir si ces choses-là sont juste des inventions de l'esprit humain ou si ces choses-là sont manifestement inscrites et qu'on peut vérifier si ces symbolismes-là est exact dans les Écritures. Et lui, moi, je vous en ai nommé deux, là. J'ai nommé le Jubilé et la Pentecôte. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend chaque chiffre et il va chercher tous les exemples dans les Écritures où le chiffre 50 est présent et il nous montre la réalité de ce qu'il est en train de nous dire. Et ça, c'est intéressant de noter ça, parce que à ce moment-là, quand on lit les Écritures, on porte une attention particulière au nombre, sachant que Dieu ne donne pas des chiffres en l'air comme ça, juste pour le plaisir, mais qu'il y a des significations qui sont souvent reliées à ces choses-là. Donc, le Seigneur ressuscité veut voir ses saints unis ensemble dans l'amour. Est-ce que quelque chose d'autre pourrait le satisfaire ou le glorifier? L'Assemblée de Dieu est un tout, une unité indivisible. Les deux groupes, à savoir les croyants juifs et les croyants entre les nations, ont été indissolublement unis par le Saint-Esprit, l'or, les deux agrafes, les 50 agrafes d'or. L'or représente la divinité. Donc les deux parties, les juifs et l'Église, ont été joints par l'or, donc le Saint-Esprit, envoyé du ciel, les lacets bleus. Quand on voit ça et qu'on réexamine les six premiers versets du chapitre 26 d'Exode, on est tout simplement ébloui. La deuxième tapis, donc c'était le blanc qui était placé par-dessus et que lui il avait 30 coudées de longueur plutôt que 28, il dépassait un petit peu, on le voyait à chaque côté, donc il était plus long et il était plus large parce qu'il y avait 11 tapis au lieu de 10. Les tapis de poils de chèvre étaient au nombre de 11. Cet assemblage avait donc 44 coudées sur 30. Il était donc le plus grand que le premier. Il était appelé la tente sur le tabernacle. Si vous regardiez le verset 7, ça disait « Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. » L'auteur Bullinger, que je vous parlais tout à l'heure, qui explique les chiffres dans son livre « Number in Scripture, Its Supernatural Design and Spiritual Significance », mentionne les choses suivantes sur le symbolisme du chiffre 11. Il affirme que ce chiffre est souvent associé au désordre, à la désorganisation, à l'imperfection et à la désintégration. Si le chiffre 10 est le chiffre de la perfection, de l'ordre divin, le chiffre 11 est donc une addition à l'ordre divin. Et si le 12 est le chiffre de la perfection du gouvernement de Dieu, le 11 est donc une soustraction de l'œuvre du gouvernement de Dieu. L'homme pécheur correspond à ce chiffre. Il a instauré du désordre dans l'ordre de Dieu et son gouvernement. Maintenant, le matériau du deuxième tapis. Dans les Saintes Écritures, la chèvre ou le bouc est associé principalement à deux idées. Le vêtement de poils du prophète et le sacrifice pour le péché. C'était une protection pour le magnifique tapis des dessous et en même temps une mesure de protection. Jésus le prophète. Alors, on peut regarder cet aspect-là du poil de chèvre, Jésus le prophète, Jean 1, versets 19 à 21. Ici, ce sont les Juifs qui interrogent Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » En parlant que pour eux, le prophète, c'était le Messie. Et il répondit, « Non. » Le peuple qui l'écoutait avec foi disait de lui. Maintenant, on va le voir, qu'est-ce que le peuple lorsque Christ est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il disait de lui? Luc 7, versets 16 et 17. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc, même le peuple d'Israël, lorsqu'il est venu sur la terre, reconnaissait que Jésus était le prophète. Et aussi, le Jésus, sacrifice d'expiation pour le péché. Dans la Bible, le sacrifice de bouc était pour l'offrande pour les péchés. On lit dans Lévitique 16, versets 1 à 10. « L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas tout le temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. » Sacrifice, la peau, le deuxième peau était de bélier. « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et il portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui, pour sa maison. Il prendra les deux boucs, les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. » L'idée à retenir, c'est sûr qu'on ne commencera pas à expliquer tout le passage de Lévitique ce matin, hein, les deux boucs, mais l'idée, c'est vraiment que souvent dans les Écritures, le bouc est utilisé comme un symbole que c'était l'animal qui était sacrifié pour le péché. Donc, quand on fait le lien avec Christ, c'est assez facile de voir. Donc, l'Ancien Testament prophétisait la venue de Christ et qu'il offrirait sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, versets 10 et 11, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera les regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » La deuxième représente véritablement l'aspect de Jésus comme sacrificateur et l'aspect de Jésus comme prophète. Maintenant, les dimensions. La longueur de chaque tapis était de 30 coudées et la largeur de 4 coudées. Donc, chaque bande mesurait 3 fois 10 coudées. Dans le chiffre 3, nous reconnaissons la Trinité divine et dans le chiffre 10, le nombre qui exprime la perfection de l'ordre divin. Le chiffre 4 est le symbole de toute la terre. Apocalypse 7, versets 9 et 10. « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Quand on regarde dans le verset 9, il y avait une foule qui venait de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. L'Éternel est en train de nous dire que sur la terre, il va y avoir des représentants de toute nation, allemand, français, name it, et il va y avoir aussi de toute langue et de toute tribu. Et alors, je ne sais pas actuellement combien il y a de langues sur la terre, mais l'Éternel dit qu'un jour, devant le trône, il va démontrer publiquement qu'il a sauvé des gens de tous ces gens-là. Donc, son salut, il l'accordait à ses élus, mais il avait des élus dans tout ce monde-là. Maintenant, l'aspect des 50 lacets et des 50 agrafes d'airain. Pourquoi dans le premier tapis, c'était de l'or, dans le deuxième tapis, c'était des agrafes d'airain? Le verset 11 nous donne le but des lacets et des agrafes. Donc, c'était l'unité du tout. Dans la version Louis II, 1910, nous avons « qui fera un tout ». Et dans la version Darby, nous avons « et elle sera une ». Donc, la deuxième partie qui avait 5 tapis reliés à 6 faisait 11. Et encore là, l'idée de démontrer l'unité de ces deux choses-là. Le chiffre 50 est connu comme celui de l'union et de la délivrance. L'unité visible des croyants est la volonté de Dieu, mais jamais cependant aux dépens de la vérité. C'est pourquoi les deux parties devaient être assemblées par des agrafes d'airain. Les justes exigences de Dieu doivent être toujours sauvegardées, et l'airain symbolise la justice inflexible du Dieu saint et le jugement sur Christ qui a précédé l'union. Donc, ce qui faisait que c'était uni avec des agrafes d'airain, c'est pour démontrer que l'unité de tout ça ne s'est pas faite sans tenir compte que le Seigneur lui-même avait payé pour les péchés de ses élus. Jean 11, 52. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors, le peuple d'Israël et les enfants de Dieu dispersés, qui étaient unis par des agrafes d'airain qui représentent que Dieu avait jugé les péchés de ces deux groupes. Troisième couverture, celle qui était en rouge, donc dans le verset 14, la première partie du verset 14, des peaux de bélier teintes en rouge constituaient la troisième couverture. Le bélier est caractérisé par son énergie et sa puissance d'action. Le bélier était la victime sacrifiée lors de la consécration des sacrificateurs. On lit par exemple dans Exode 29, verset 1, et aussi les versets 15 à 20. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, en parlant des sacrificateurs, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Et là, après ça, on va aller au verset 15. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils posera leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang. Tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Alors, les béliers, comme on dit, principales caractéristiques, énergie, puissance d'action. Rappelons-nous aussi que la première victime qui a été sacrifiée lorsque Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils, et que Abraham, en voulant sacrifier son fils, Dieu avait arrêté son action et avait permis qu'il trouve un bélier pris par les cornes. Alors, dans Genèse 22, versets 13 et 14, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Qui avait pourvu à la victime parfaite? Dieu le Père. Ce sacrifice représente la consécration parfaite du Fils au Père. Il fut obéissant jusqu'à la mort de la croix, comme nous lisons dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand on s'arrête à penser ça, on est à notre 22e leçon en boucle, on est en train d'étudier sur les attributs de Dieu, puis on n'a pas fini. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que tous ces attributs-là, d'une façon simultanée, étaient présents dans la personne de Christ, et quand il est venu sur la terre, personne ou presque, ça lui a pris beaucoup de temps, avant de reconnaître qui était devant eux. C'était la tente, c'était son corps. Personne ne voyait ce qu'il y avait à l'intérieur. L'intérieur de sa personne, c'était la divinité. Il s'est dépouillé. La manifestation visible de sa divinité n'était pas perceptible par les hommes. Du moins, ça lui a pris beaucoup de temps avant d'en arriver à la certitude que c'était Dieu incarné. Donc, la couverture, les peaux étaient teintes en rouge. Cela renforce la pensée de sa mort et de son sang versé. La vie du Seigneur Jésus a été caractérisée par un don complet de lui-même jusqu'au bout. Cette consécration allait de pair avec une énergie spirituelle puissante qui l'a distingué comme chef de ses rachetés. L'absence de dimension pour le troisième tapis est aussi symbolique, indique qu'il n'y avait pas de limite à sa consécration, à son obéissance au Père. Il pouvait dire en vérité, comme on voit dans le psaume 40, verset 8, « C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Et la quatrième couverture, celle de peau de dauphin ou de peau de tesson, dépendamment des versions qu'on a. Alors, on a vu tantôt que c'était comme couleur un peu beige avec des taches brunes. C'était pas vraiment quelque chose de très attrayant. Alors, le fait que la dernière couverture n'était pas attrayante, la couverture la plus extérieure était faite de peau de dauphin ou de tesson. Elle n'avait rien d'attrayant de dehors. Elle était terne et de couleur neutre. Elle n'attirait pas les regards des passants. Les peaux de tesson n'éveillaient pas non plus la convoitise autour d'elle. Comme beaucoup d'autres détails du sanctuaire, cette couverture est également une image du Fils de Dieu, Jésus-Christ devenu homme. Le prophète Isaïe l'a décrit dans ses paroles, Isaïe 53, versets 2 et 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et là, ici, dans le contexte, c'est clair comme l'eau de roche, là, il parle de Christ. Ça nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alors, quand on nous présente des images de Jésus aujourd'hui, qui était un super de bel homme, puis les cheveux longs, premièrement, il ne peut pas avoir les cheveux longs, il avait une barbe, les Écritures nous disent qu'ils lui ont arraché la barbe. Souvent, ces images-là, c'est des images complètement fausses, qui n'ont aucun lien avec ce qui est écrit dans les Écritures. Et ça dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors, on peut déduire, d'après les Écritures, que le Seigneur Jésus, physiquement, n'avait pas un aspect pour séduire les hommes. Il devait avoir un aspect physique assez ordinaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait aucun cas de lui. Quand on regarde, qu'on essaie de témoigner autour de nous aujourd'hui, n'est-ce pas la réaction que ça provoque chez ceux qui reçoivent le message? On leur parle de la divinité de Christ, on leur parle de la beauté de Christ, on leur parle de l'œuvre de Christ, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement comme ici. Ils nous détournent le visage, ils nous dédaignent, puis ils ne font aucun cas de nous. Alors la peau de tesson, la peau de dauphin, ça représente l'aspect que de l'extérieur, il n'y a rien d'attrayant. Mais si tu t'en vas à la première couverture, tu découvres des choses glorieuses sur la personne de Christ, qui il était en réalité. Un inconverti ne peut pas apprécier Christ, mais celui qui a appris à le connaître se sait en sûreté et caché. Cette couverture résistait à toutes les influences de l'extérieur. Tel était Christ, immuable. Le péché ne pouvait l'atteindre. Il peut résister à toutes les tentations, à toutes les oppositions. Sous sa protection, nous sommes en sécurité et ainsi nous sommes gardés dans sa communion. Autre caractéristique du dauphin ou du tesson, c'est que c'était un solitaire. La deuxième chose qu'on peut nous enseigner de cette couverture tient au caractère distinctif de l'animal dont elle provient. Le tesson est connu comme un animal solitaire. Jean 16, verset 32. « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Quand on lit la Passion, qu'est-ce qu'on voit? Les apôtres, tout le monde l'ont abandonné. Il était vraiment seul, comme ça dit, il n'était pas vraiment seul, il y avait le Père avec lui. Mais au point de vue des hommes qui étaient ses disciples, tous l'ont abandonné lors de sa passion, lors de sa crucifixion. Autre caractéristique du tesson, cette couverture a une troisième signification qui réside dans le fait que le tesson est d'une extrême vigilance. C'était là aussi une caractéristique de Jésus-Christ. Il veillait jalousement à ce que les droits de Dieu ne soient pas lésés. Il s'attirait ainsi l'inimitié des hommes qui imposaient au peuple de Dieu les ordonnances humaines. Les exigences de Dieu se trouvaient ainsi rejetées. Matthieu 15, versets 8 et 9. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des principes qui sont des commandements d'hommes. » Donc, ce que ces hommes faisaient, ils lésaient les droits de Dieu par leur tradition. Nous connaissons ces paroles empreintes de sainte colère. Jean 2, verset 17. « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. » Si on veut prendre un exemple glorieux d'une personne vigilante, travaillante, ne cessant jamais ses activités, c'est bien celle du Seigneur Jésus. Passait des nuits en prière. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui a déjà passé une nuit complète en prière? Le Seigneur était toujours, son esprit était toujours en cherchant à le bien de ses élus. Pour cette dernière chose-là, dernière tapis-là, aucune dimension n'est donnée également, qui symbolise qu'il n'y a aucune limite à la consécration, à la vigilance, à la dévotion et à l'humiliation de Jésus-Christ. À partir de ce qu'on vient de regarder sur les quatre tapis, c'est sûr qu'on a appris des choses, mais comment on peut trouver des applications à mettre dans notre vie de tous les jours, à mettre en application? Je pense que le passage contribue à mieux nous faire connaître la merveilleuse et glorieuse personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Le premier revêtement nous parle de son origine céleste, de sa sainteté absolue et insondable, de sa déité, de sa royauté. Il est le roi des rois et le dominateur du ciel et de la terre. Premier tapis. Deuxième. Le deuxième et le troisième revêtement nous parlent de son œuvre de sacrificateur. Il s'est offert lui-même en sacrifice parfait pour subir notre châtiment et accomplir les exigences de Dieu à notre place par substitution. Il a été la victime propitiatoire qui nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné la vie éternelle. Donc, le deuxième et troisième tapis, par la couleur du sang, et l'autre représente l'aspect de Jésus sacrificateur qu'il a. Et le quatrième, couverture nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas attrayant pour les pécheurs impénitents. Témoigner de son nom et de son œuvre nous apportera aussi d'être haïs, rejetés et méprisés. Le Seigneur a dit qu'on ne fera pas mieux que le Maître. S'ils ont haï le Maître, ils vont haïr aussi ses disciples. Nous connaîtrons comme lui aussi la solitude. Ne nous attendons pas d'être reconnus, aimés ou appréciés lorsque nous témoignons. Ça, c'est vraiment une chose, ça m'a pris bien des années à comprendre ça. Il faut, quand tu témoignes de Christ, il ne faut pas que tu t'attendes que tu vas avoir des applaudissements et des tapes dans le dos. Tu risques plus d'avoir des tapes sur la gueule, comme on dit. Les gens, les Écritures nous disent que les hommes détestent Dieu, sont en inimitié, sont des ennemis ouverts. Ce sont rares ceux qui sont capables de... J'ai rencontré juste un homme dans ma vie qui m'a dit ouvertement qu'il haïssait Dieu. Tout ceux à qui je posais la question, ben là, quand je leur mentionnais que les Écritures disent que tu haïs Dieu, je dis, ben, on haït pas Dieu, moi. Pourtant, les Écritures nous disent que tous les hommes, dans leur état d'inconversion, haïssent Dieu. Alors, quand on témoigne, faut pas s'attendre à ce que les gens vont dire, oh, quelle bonne nouvelle, je suis donc content que tu m'appelles ça. Quand tu viens annoncer aux hommes qui sont pécheurs, qui sont perdus, surtout quand ils comprennent ce que ça veut dire être perdu. Ben, ils disent, voyons donc, ton Dieu, j'en veux pas de ton Dieu. Il m'a fait de mal dans ma vie, moi. Je vis aussi bien que tout le monde. Comment vous allez entendre ça? C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de leur état de dépravation. Ils ne sont pas conscients de leur état de corruption. Et quand vous venez leur annoncer ça, ils n'aiment pas ça. J'ai rencontré souvent des gens qui me disent qu'ils n'avaient jamais commis de péché. Et là, je m'amuse souvent ce temps-là, puis je dis, je la regarde dans les yeux, puis je dis, « T'as vraiment compté un mensonge. » Et là, c'est drôle de leur voir la face, parce que la face leur tombe. La face leur tombe, parce que tout le monde sait qu'il a déjà fait des péchés, mais il y a du monde qui ose dire qu'ils n'ont jamais fait de péchés. Et quand tu leur demandes, « T'as jamais compté un petit mensonge dans ta vie? » Souvent, là, ça s'arrête d'être là. Et là, il dit, « OK, j'ai fait ça. » Ben, si tu l'as fait celui-là, tu l'as fait probablement fort beaucoup d'autres. Je pense que la quatrième couverture vient de nous parler d'une chose qu'on se doit d'appliquer dans nos vies. Témoigner de son nom autour de nous ne nous apportera pas les applaudissements des hommes et leur appréciation et leur amour. Souvent, ça va nous emmener plutôt d'être haïs, rejetés, méprisés. Lui ou elle, ils vont nous haïr puis ils vont nous mettre de côté. Puis plus tu vas témoigner, puis plus tu vas dénoncer le péché dans ton milieu. Aujourd'hui, peut-être un des faits pour lesquels on est plus tellement méprisé ou rejeté, c'est parce qu'on dénonce plus le péché, ou du moins très peu. Alors, en le dénonçant pas, c'est sûr qu'on se fond dans la foule, mais commence à dénoncer le péché dans ton milieu, que ce soit de travail ou quoi que ce soit. À chaque fois que tu vas tenter un péché, quand tu entends quelqu'un blasphémer, dire « Hey, tu blasphèmes le nom de Dieu ». Puis ose le faire régulièrement, tu vas voir. Là, tu vas comprendre ce que je dis, là. Tu vas être haï, méprisé, tassé de bord, on ne veut rien savoir de toi, on ne va même plus te parler. Et même, ils vont te faire du trouble à ton travail, ils vont carrément... Alors, faut pas oublier que si, souvent, on n'est plus très méprisé ou rejeté ou haï ou mis de côté, c'est souvent parce qu'on ne dénonce plus le péché, on s'est mondanisé. Et alors, c'est ce qui arrive. Cependant, gardons nos yeux fixés sur sa majestueuse personne, son infinie valeur et la destination finale dans le bonheur absolu et la plus complète félicité. Ainsi, nous pourrons annoncer quotidiennement son saint et glorieux évangile. Si on se met à annoncer régulièrement le nom du Seigneur avec la véritable évangile, pas quelque chose de « Dieu t'aime, puis il aime tout le monde, il va sauver tout le monde », le véritable évangile, ça défrise l'homme, ça le met en état de rébellion. Mais si on le fait et on trouve ça dur, c'est normal, le Seigneur, il nous dit qu'on va passer par le même chemin que lui. Si on trouve ça dur, la seule recette qui est valable pour continuer de le faire, c'est comme la dernière phrase que je viens de dire. Levons les yeux sur sa glorieuse personne. Levons les yeux sur ce qu'il a fait pour nous. Levons les yeux sur le bonheur et la félicité future. Et là, à ce moment-là, on a les yeux moins fixés sur notre nombril, sur notre douleur de faire les choses que le Seigneur nous demande. Et on a les yeux plus fixés sur lui. Et ça nous donne la capacité de recevoir les traitements que lui a reçus et qu'il ne nous a jamais dit que nous ne les recevrions pas, nous non plus. Au contraire, il nous a dit, si on l'avait fait au maître, ils vont le faire aussi aux disciples. Alors, demandons ces choses à Dieu par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Notre Dieu, notre roi, encore une fois, ces 14 premiers versets du chapitre 26 de l'Exode nous parlent de la glorieuse personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Aussi, Seigneur, permet que nous développions un intérêt plus aiguisé pour étudier ta parole, méditer sur ce qui est écrit et aussi aller des fois chercher des significations plus profondes dans les Saintes Écritures de manière à ce que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner qui touche la personne de Christ et que nous n'ayons plus, Seigneur, une lecture superficielle et qui n'a pas de signification. Seigneur, permets qu'on fasse ces choses, qu'on aime ta parole plus que jamais et qu'à chaque page que nous lisons dans les Écritures, nous cherchions la personne de Christ et cela pour notre plus grand bien et pour ta plus grande gloire. C'est ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.